Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous avons vu le premier verset la semaine dernière et nous allons prendre le deuxième verset ce matin. Notre étude est a pour thème conformer ou transformer. Donc Romains chapitre 12 et je vais lire les premiers deux versets. Romains chapitre 12 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Déjà la semaine dernière, nous avons souligné le fait que les versets 1 et 2 traitent de l'expression de l'œuvre. Hein, jusqu'au chapitre 8, eh bien, nous avons vu l'œuvre du salut et ce que Dieu, dans le chapitre 8, ce que nous avons en Jésus-Christ. Et maintenant, il est dit, puisque vous l'avez, maintenant il faut le vivre. Et donc, dans ces deux premiers versets, eh bien, ce sera cette expression individuelle, hein, en tant que croyant individuel. À partir du verset 3, eh bien, nous allons voir jusqu'au verset 8, ce sera comment cette vie dans le corps de Christ. Hein, nous faisons partie d'un corps, et donc comment cela se vit dans le corps. Mais les versets 1 et 2, c'est nous individuellement, c'est ma responsabilité. Donc, nous avons vu la semaine dernière qu'il nous a encouragé à offrir nos corps, parce que le corps est l'expression de ce qui est en nous, et finalement, on offre tout notre être. Et lorsque l'Éternel a appelé Abraham, vous connaissez l'histoire, eh bien, il lui a demandé de faire un sacrifice. Maintenant, lorsque nous regardons en arrière, nous croyons que ce sacrifice n'était pas si énorme que cela, mais pour le moment, ça l'était. Parce que le Seigneur lui avait dit, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà. Quitte tout ce que tu connais et va vers un pays et sans lui dire où c'était. C'était sa première démarche, la première chose que Dieu a demandé d'Abraham. C'était gros déjà, mais Abraham a été obéissant, il a suivi. Il avait 75 ans quand il a fait cela aussi. Hein. La plupart d'entre nous, on commence à penser à la retraite à 75 ans. Mais lui, c'était le début d'une vie, d'une carrière. Et 40 ans plus tard, Dieu lui demande un autre sacrifice. Et ce sacrifice, eh bien, c'est d'offrir son fils, de l'offrir à Dieu. Et là, par rapport au premier, c'est un énorme sacrifice. Mais il était en mesure de le faire. Pourquoi ? Bien parce que pendant ces 40 années, Dieu a travaillé dans son cœur, sa foi s'est développée, sa confiance en Dieu s'est développée, il a eu des expériences, il a eu des épreuves. Et il a pu connaître Dieu. Et autant c'était difficile de quitter sa patrie, autant ça va être difficile d'offrir son fils, mais il va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en Dieu. Sa foi grande. Il y a un travail qui est fait. Et vous savez, c'est un peu là aussi, dans notre passage, nous parle d'un sacrifice. Et il y a un sacrifice qu'on fait lorsqu'on commence notre vie chrétienne. Et déjà, il y a des décisions à prendre, parfois on coupe des relations, parfois on change des habitudes, parfois il y a des choses, il y a des sacrifices. Mais ensuite, le Seigneur travaille dans notre cœur, et par la suite, nous sommes prêts à faire encore de plus grands sacrifices pour lui, mais toujours dans le sens de sa gloire et de notre bien. Hein, donc, Dieu, à la fin, au bout de 40 ans, eh bien, Dieu demande à Abraham, il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, sur une montagne que je te dirai. Et là, donc là, ça, nous avons la possibilité de mesurer l'œuvre qui s'est faite dans le cœur d'Abraham. C'est énorme, hein, et nous, tout d'un coup, on lit le passage « Offrir ton fils », et pour nous, c'est le choc, mais parce qu'on n'y est pas encore. Et il ne demande pas de le faire. Mais ce que le Seigneur peut, il peut travailler dans nos cœurs, et nous prépare pour des sacrifices. Et nous avons tous entendu parler de certaines personnes, et on est dans l'admiration de ce qu'ils ont pu offrir à Dieu, mais c'est parce qu'il y avait un travail qui a été fait. Et c'est justement ce de quoi il parle ici dans ce verset 2. Et le Seigneur veut reproduire ce travail dans nos cœurs. Alors, Abraham, c'était un homme ordinaire, mais qui a su développer sa foi. Et nous sommes des personnes tout ordinaires, mais le Seigneur peut faire le travail dans nos cœurs pour arriver à ce point. Nous avons vu la semaine dernière que le premier sacrifice qu'il demande de nous, c'est notre corps. Il dit, écoute, mettons ton corps, ta personne à ma disposition. Il commence par cela, il dit fais cela. Et comme bien sûr, il sait que le reste vient. C'est notre société occidentale, eh bien, a été grandement influencée par la culture grecque, hein, qui accordait une grande importance au corps humain. Hein. On a même conservé certaines habitudes, on a toujours les Olympiques, hein, c'est par excellence mettre en valeur les capacités du corps humain. Et même de nos jours, hein, si on pense à tout ce qu'on, l'effort et tout ce qu'on dépense pour améliorer le corps humain, eh bien, c'est extraordinaire, hein, ce qu'on est prêt à faire, à mettre dans le corps, au point de négliger tout le reste. Et on met en valeur, vous regardez sur les affiches publicitaires, on met un corps humain, avant on mettait des femmes, maintenant on commence à mettre des hommes, et on met en valeur le corps humain. Et puis après, vous avez les top modèles qui sont là, qui sont mis en valeur, on les voit partout, on a des héros, on les appelle des stars, toutes sortes de choses. Mais on ne se pose jamais la question de ce qu'ils sont, leur caractère, il est comment, de leurs relations, comment ils s'entendent avec les gens. Non, c'est l'apparence, le corps. Et notre société met cela en valeur. Mais on ne règle pas les problèmes, ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un de beau que ça ne veut rien dire. C'est la transformation de la personne. Et puis finalement, imaginez toutes ces personnes qui regardent ces stars et ces modèles, et puis qui disent, mais moi, je ne pourrais jamais être ça, et puis qui se sentent diminués. Parce que, qu'est-ce qu'on a mis en valeur? On a mis ce à quoi ils n'ont pas accès. Et donc, un handicapé, par exemple, physique, est considéré comme une pauvre personne, alors que toute sa personne est là. Il n'y a que peut-être des membres qu'il ne peut pas utiliser. Mais lui, sa personne, elle peut se développer. J'ai rencontré des gens paraplégiques qui avaient une personnalité extraordinaire. Et qui, quand il arrive, il met l'ambiance partout. Mais parce qu'ils ont mis en valeur la personne. L'œuvre qui est en lui. C'est l'homme intérieur. Mais notre monde, il n'a rien à proposer pour l'homme intérieur. Et donc, il met en valeur l'homme extérieur. Mais nous, ne tombons pas dans ce piège. Hein. Il y a même des mouvements religieux qui, pour réagir à cette déification du corps humain, eh bien, on enseignait le mépris du corps, le mépris des besoins, et pour atteindre le spirituel, mais finalement, ils sont morts dans cet état, sans atteindre ce qu'ils cherchaient. Hein, c'est ni l'un extrême, ni l'autre. Hein. Et c'est pas le Seigneur ne nous enseigne pas le mépris du corps, mais il dit, mais le corps, c'est le haut-parleur, Mais qui est celui qui parle dans le micro? Et donc, le corps, c'est ce qui permet d'exprimer la personne. Et lorsqu'on a des relations étroites avec une personne, le corps, ça ne suffit pas. Hein. Il faut que la personnalité, il faut que son comportement, il faut que son attitude, tout ça. On vit avec ça quand on vit très près. Hein. Quand c'est à la télé, ce n'est pas un problème. Mais quand on vit avec dans la maison, là, c'est autre chose. Hein. Et le Seigneur, lui, place l'importance juste sur la personne. Vous savez, quand il nous parle du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la bonté, tout ça, ce ne sont pas des choses physiques. Hein. C'est des traits de caractère. C'est des manières de décrire la personne qui vit dans le corps. Et quand il nous parle aussi de l'importance de la relation. Chez Dieu, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de relation. Comment est ta relation? Ta relation avec Dieu et ta relation avec ton prochain. Au point qu'il nous dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, chez Dieu, c'est l'être intérieur qui importe. Hein, la semaine dernière, on a parlé de l'esprit, hein, qui est ce qui permet à nous d'être en relation avec Dieu, mais qui influe sur l'âme de la personne, transforme l'âme, les désirs, les goûts, les capacités, et puis après cela s'exprime au travers du corps. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, on passe du temps avec quelqu'un, très vite on commence à cerner la personne. Hein. Peut-être parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est le premier abord, on regarde l'apparence. Et même là, hein, regarder l'apparence, on se fait des idées déjà. Hein. On regarde la tête de quelqu'un et on se fait des idées. Parfois on se trompe, ça, mais bon, mais on se fait des idées. Mais là, et on revient ici, l'exhortation de Paul, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vous savez, le mot ici « conformer » signifie se conformer soi-même au modèle d'un autre. C'est-à-dire se conformer, c'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre qui a un modèle et j'essaye de ressembler. Il suffit qu'une star s'habille d'une certaine manière, tout d'un coup, c'est une mode et tout le monde s'habille pareil. Il suffit que... On est conformé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous ne devons pas nous laisser mettre dans le moule que veut nous imposer le monde. Hein? Vous savez, dans la société, on préfère ce qui ressemble. On veut ce qui est identique. Fais comme moi, pense comme moi, tout ça. Et il y a de gros efforts. Et finalement, c'est l'être humain, dans un sens, quand on le met dans un moule, il est mal à l'aise parce qu'on a été créé pour être libre. Mais en même temps, la société veut, et si tu ne te conformes pas, si tu ne fais pas comme les autres, eh bien, on te rejette, on te repousse, on se moque de toi. Tu ne ressembles pas aux autres. Tu ne fais pas comme les autres, tout ça, et tout d'un coup, on a toutes sortes de noms pour cela. Le monde est cruel, en fait, et il veut la conformité, il veut qu'on rentre dans le moule, et dans le moule qu'on a décidé être le monde. Mais le Seigneur nous dit, ne te laisse pas qu'on t'impose un moule, qu'on t'impose une forme. Tu n'as pas besoin de ressembler et de devenir semblable à un autre. Parce qu'on n'a pas été créé pour cela. On a une individualité, on a une personnalité qui nous est propre. Et je suis moi. Et je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis moi, je suis. Et ne fais pas de moi autre chose. Je veux ce que je suis, ce que Dieu m'a donné. À part le péché, tout ça, on l'écarte, mais je veux. Et là, on est épanoui lorsque je trouve ce qui me convient. Et, Dites, si tu parles, c'est de la psychologie, de la religion que tu parles. Ça va ensemble. L'être humain, c'est un homme entier. L'âme, l'esprit, l'âme, le corps, c'est tout. Et l'évangile de Dieu, c'est pour nous tous. Et Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il est, est mort pour l'homme entier. Et pour transformer l'homme entier. Corps, âme et esprit. Et c'est pour ça qu'il parle même de résurrection du corps, parce qu'il a dit je veux tout. Vous savez, c'est tellement le monde veut que nous mettre dans un moule que quelqu'un qui veut exprimer de la révolte, eh bien, il est obligé de s'habiller complètement différent des autres, de manière et d'avoir un comportement qui choque pour pouvoir dire je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que tellement on veut mettre les gens dans le moule. Il y a tout un comportement à avoir pour être bien vu. Et comme on veut être accepté, comme on veut être apprécié, comme on veut, et alors on rentre dans le moule et puis on devient comme des moutons. Et le Seigneur nous dit, bon déjà, l'être humain, finalement, il n'aime pas ça, hein. C'est pour ça qu'on l'impose, on parle d'un moule. Mais deuxièmement, quand on est en Jésus-Christ, alors on n'aime vraiment pas ça. Hein, parce que lui nous enseigne la liberté. Et pas même des religions. Hein, les religions essayent de mettre dans un moule et puis ils disent, voilà, celui qui est saint, un bon chrétien, il est comme ça. Et ils nous mettent dans un moule. C'est pas l'Écriture non plus. Hein, c'est pas ce que Dieu a enseigné. Jésus-Christ, eh bien, vous lisez les évangiles, vous trouvez sa individualité. Et il ne s'est pas conformé à. Et puis il n'a pas cherché à l'approbation de tout le monde. Il a été ce qu'il est. Bon, ce que nous voyons en lui, ça nous attire, c'est sûr. Mais il a été ce qu'il est en tout moment et devant tous. Lorsqu'il était seul avec ses disciples ou lorsqu'il se trouvait dans le temple à Jérusalem, c'était toujours le même. Et donc, c'est vraiment ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas mettre dans le moule du monde présent. Ce que le Seigneur recherche, c'est un corps qui reflète pas la pression extérieure, mais qui reflète la transformation intérieure qu'il vit. L'œuvre de Dieu, qu'elle soit manifeste. Celui qui a présenter son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, vit selon la nouvelle nature. Hein, on a parlé d'une nouvelle naissance, c'est pas juste qu'on a signé un document pour que quand on arrive au ciel, on a le laissez-passer. Non, la nouvelle naissance, c'est lorsque j'ai reconnu mon état de pécheur devant Dieu et j'ai reconnu que je n'étais pas en état pour un Dieu trois fois saint. Eh bien alors, j'ai confessé mon péché, je lui ai demandé pardon, et puis il me donne une nature nouvelle, celle de Christ. Et donc je commence à vivre cette nature nouvelle. C'est cette transformation. Comprenons hein, et reconnaissons que quand même le monde qui nous entoure est un peu dominé par l'ennemi de notre Dieu. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, l'ennemi il est venu là pour essayer de mettre du bazar. Et il le fait encore, il n'a pas changé. Et donc, sachant que ce moule qu'on veut mettre sur nous, même si au travers du temps il change de forme, le moule est différent, suivant quelle religion domine, suivant si on a des grands moyens ou des petits moyens, si on est puissant ou si on est faible, il y a des choses, mais il dit non. Ne te laisse pas moulé par ce monde, mais plutôt laisse agir le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, transformer, et puis exprime ce qui est en toi. Vous savez, si vous prenez un bulbe de tulipe, peu importe où vous le plantez dans un parc d'un château, ou vous le plantez dans une casse d'automobile, ce bulbe, il va donner la même fleur. Pourquoi ? Parce qu'il produit en fonction de ce qu'il est, pas en fonction de l'environnement. Vous lui mettez dans un champ de coquelicots, il donnera une tulipe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il est. Et c'est que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, j'ai reçu une nouvelle nature, eh bien, je dois, lorsque je vis et je m'épanouis en m'épanouissant, eh bien, plus je m'épanouis, plus on se rend compte que je suis différent, c'est sûr, mais je suis ce que je suis. Et je suis à l'aise avec ce que je suis. Et c'est pas parce que tous les autres, et c'est joli les coquelicots, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas un coquelicot, c'est tout. Il est une tulipe. Et il n'y a rien de plus normal que s'il y a un canard dans la basse-cour de poule, que ça ressorte. C'est la première chose qu'on voit. Il y a lui, qu'est-ce qu'il fait là ? Écoutez, il ne mange pas pareil. Sa démarche, c'est pas la même. Ses loisirs ne sont pas les mêmes. Son langage n'est pas le même. Les poules ne seront jamais trompées. Et c'est même pas la peine qu'il essaye de les imiter. L'enfant de Dieu, qui l'est par la nouvelle naissance, hein, pas par une naissance ou un baptême bébé ou quelque chose comme ça, mais celui qui est vraiment né de nouveau en Jésus-Christ, eh bien, ne peut pas se conformer au monde qui l'entoure, qui a renié le Seigneur. Je peux pas être pareil. Eux, ils regardent dans une autre direction. Ils ont un autre désir, une autre ambition. Ils ont d'autres valeurs. Et plus ça va et plus j'avance, moins je les ressemble. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et eux, ben, c'est à eux de m'accepter. Mais bon, toutes les sociétés ne m'acceptent pas. Hein. Il y a des sociétés qui n'aiment pas qu'on soit différent. Et donc, c'est pour ça que ces derniers temps, on a fermé des églises. Et parce qu'on n'accepte pas qu'ils soient différents. Et moi, je suis enfant de Dieu. Et j'ai une vie en moi. Et je veux produire la fleur qui a été mise en moi. Et je suis confiant que ce sera une belle vie, une belle fleur. Pourquoi ? Parce que celui qui l'a mise en moi, c'est quelqu'un qui a un vrai goût de beauté. Hein ? Dieu, vous savez, la beauté, quand on regarde avec plusieurs millénaires de recul à notre monde, et avec tout ce que l'homme a fait subir à la terre, et heureusement que la terre est capable de se guérir, hein, comme notre peau, elle se guérit s'il y a une blessure, et la terre arrive à réparer beaucoup de choses, et heureusement qu'il y a des bactéries qui sont là pour aider la réparation et rattraper ce que l'homme fait. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si on prend le temps de regarder ce monde, on dit, il aime bien ce qui est beau, il aime bien les couleurs, il aime bien les formes, il aime la variété, on arrive à en savoir des choses sur Dieu. Eh bien, ce Dieu qui a su faire de la nature, hein, il s'est exprimé à travers la nature pour dire, voilà ce que je suis au-dedans de moi, ce que tu ne peux pas voir, bien voilà, regarde la nature, tu vois ce que je suis et comment je me comporte et ce que je recherche. Il dit, c'est ça que je veux mettre en toi, mettre quelque chose de beau. Et donc, ne résistons pas à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Mais laissons-le agir. Et c'est pour ça qu'il continue, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous noterez que quand il dit ne vous conformez pas, c'est de l'actif. C'est la forme active, ça veut dire que c'est nous. Hein. Si tu te conformes, c'est toi. Hein. C'est toi qui l'as voulu. Mais quand il parle de soyez transformé, c'est la forme passive. Ça, c'est une chose que lui fait en nous. Parce que c'est normal, nous ne pouvons pas nous rendre quelque chose. Mais lui peut faire une œuvre en nous. Mais il faut le laisser faire. Et il dit, il fera une transformation qui sera bonne, agréable et parfaite. Le mot transformer ici, je l'ai souvent dit, mais c'est le mot transformer, c'est le mot français qu'on a tiré de ce mot grec, c'est métamorphoser. Métamorphoser qui veut dire transfigurer, C'est le mot qui est utilisé par Matthieu dans son évangile lorsqu'il a voulu décrire Jésus sur la montagne et nous dit qu'il a été transfiguré. Il a été, c'est-à-dire ce qui est, il n'était plus le même. Il a dit c'est d'une blancheur comme on n'avait jamais vu. Et mais c'est le mot qu'il a employé, transfiguré. C'est cette métamorphose. C'est aussi c'est lorsque l'apôtre Paul, bon, quand il s'appelait Saul, Saul de Tarse, et qui était convaincu que Jésus-Christ était mort et que les disciples avaient volé son corps et l'avaient caché et qu'ils annonçaient qu'il était ressuscité. Mais lui était convaincu que Jésus-Christ est mort, et il est bien mort, et il n'existe pas. Et donc, et tellement il était convaincu de cela, il a même voulu arrêter cette hérésie et cet enseignement, parce que c'était faux, et par jalousie pour Dieu, il voulait arrêter ces gens qui étaient en train de propager un mensonge. Et il a fait ce qu'il a pu à Jérusalem, il avait l'autorisation d'aller à Damas, il était en chemin, il est en train de dire, voilà comment je vais faire, j'ai développé des techniques, je vais les attraper, je vais arrêter ça, il faut que j'arrête ça. Et en chemin, tout d'un coup, il rencontre Jésus qui lui parle. Vous imaginez ce qu'il a vu? Ah bon, je croyais qu'il était mort. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il est vivant, qu'il lui parle. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et vous imaginez, tout d'un coup, là, ça a pris. Tout d'un coup, ben, ça a changé. Et ce n'est pas étonnant que l'apôtre Saul de Tarse a été transformé. Et tout d'un coup, cette même personnalité, une personnalité zélée, ardente, militante, et bien tout d'un coup, ça a changé de contenu, mais sinon, c'était toujours la même personne. Et tout d'un coup, il est devenu, mais avec un autre message. Il a été transformé. Il a compris que, en fait, le Jésus de Nazareth qu'il combattait était réellement le Messie dont parlaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et en fait, même ce mot transformé a l'idée d'être transformé vers quelque chose de meilleur, une amélioration. Hein, imaginez, vous pensez à la chenille qui devient le papillon, hein, c'est la métamorphose. Et il y a une autre fois que c'est utilisé, bon, Marc utilise le même mot pour la transfiguration de Christ, il va employer le même mot. Et la quatrième fois que ce mot se trouve dans le Nouveau Testament, c'est dans Tite, chapitre 3, verset 5. On retrouve ce mot et je vous le lis, il dit « il », c'est-à-dire « Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement, hein, c'est là le mot, le renouvellement du Saint-Esprit, la transformation. Ce mot a été traduit renouvellement ici, mais c'est le même mot, transformation, transfiguration. Le Saint-Esprit fait cette œuvre, il transforme. Je ne peux pas rencontrer Jésus, je ne peux pas développer une relation avec le Seigneur et tout ça, sans que ça m'affecte. Hein, c'est pour ça que s'il n'y a pas de changement, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, ça va changer. Et la transformation que nous pouvons vivre ne vient pas du fait qu'il y a un cadre nouveau. Hein. La transformation, c'est une transformation, il a dit, le renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Dans l'âme, au niveau de l'âme, il y a un changement de la manière, les valeurs, la manière de penser, la formulation des choses, la vue sur la vie. Elle est complètement autre. On parlait tout à l'heure de la tulipe qui produit des tulipes. Peu importe, vous la mettez à côté de la poubelle, elle donnera une jolie tulipe, hein, n'importe comment. Peu importe où on est placé, c'est pareil. Ça me fait penser à une expression que j'avais lue, il dit « fleuris là où tu as été planté ». Peu importe où tu es, fleuris de ce que tu es. Et bon, on peut mettre ça dans la vie de tous les jours, mais aussi en tant que chrétien, c'est vrai. hein, fleuris selon l'œuvre de Dieu qui est en toi. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, le changement de le renouvellement de l'intelligence, dans Éphésiens 4, 28, l'apôtre Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est en le besoin. Vous savez, dans la société, qu'est-ce qu'on fait avec le voleur? On dit c'est interdit, et puis on le menace. Si tu fais ça, eh bien, voilà ce qui t'arrive. Hein. Et on a tous des peines qu'on attribue en fonction de la gravité, on discute de ça. Mais c'est tout ce que le monde dit. Un moule, ça ne va pas, tu ne peux pas le faire, et on est dur avec toi. L'œuvre de Dieu nous dit, il dit pas, c'est pas une question de ça, mais il dit un changement de la pensée. Avant, tu volais, peut-être parce que tu voulais quelque chose, parce que tu voulais répondre à tes besoins. Parfois, le vol, il est motivé par le besoin, parfois il est motivé par la jalousie, parfois il est motivé par l'ambition, par toutes sortes de choses. Mais avant, tu le faisais, mais tu cherchais toujours ton intérêt. Il dit, maintenant que tu es en Christ, tu ne vas pas voler, pas parce que c'est interdit, tu vas voler parce que tu cherches le bien de l'autre. Tu veux répondre à son besoin. Et donc, tu vas entreprendre une activité qui te permettra non seulement de répondre à tes besoins, mais aux besoins de quelqu'un d'autre. Voyez-le, il dit le renouvellement de la pensée. Tu penses autrement, tu vois la vie autrement. Et après, là, ça devient naturel. Parce que ça convient avec la nouvelle pensée, la nouvelle manière de réfléchir. Ça convient, c'est une expression. Et donc, tout d'un coup, pourquoi tu ne voles pas? Parce que c'est pas parce que j'ai peur du gendarme. C'est parce que je ne veux pas voler. En fait, j'aimerais plutôt lui donner quelque chose que de prendre ce qui est à lui. Et ce changement, bien sûr, cette métamorphose. Hein, je me souviens d'un frère qui avait un terrible problème d'alcool et au point que c'est la première chose qu'il faisait en se levant le matin, c'est la dernière chose en se couchant et pourtant il était encore jeune, il était dans sa vingtaine et puis on voyait déjà dans sa peau toutes les marques de l'alcool tellement il en avait consommé. Et ce frère est venu au Seigneur. Et puis au bout d'un certain temps, je l'ai appelé par son nom, j'ai dit, tu sais, on ne voit plus les traces de l'alcool sur ton visage. Mais ce n'est pas parce que c'est interdit que c'est arrêté. L'alcool, il n'y a personne qui interdit la consommation d'alcool. C'est l'abus de l'alcool, c'est un problème, mais ce n'est pas l'alcool en soi. Mais là, il dit, tout d'un coup, il avait une autre mentalité. Parce que ça avait été toujours un problème, il est devenu abstinent, et puis il a passé à autre chose. Mais pas seulement qu'il ne buvait, mais qu'il avait de la compassion pour ceux qui avaient un problème. Et quand on avait quelqu'un qui venait à l'église, qui avait un problème dans ce domaine, lui, parce que quand on est du milieu, on reconnaît tout de suite, hein, pas besoin de le dire, personne n'a besoin de le dire, il regarde derrière le visage de quelqu'un, et puis c'est tout de suite, il dit, écoute, je te connais, moi. Et puis il se parle, hein. Il n'y a rien pour reconnaître un ancien drogué comme un ancien drogué. Hein. Et on reconnaît le. Et il avait ce témoignage. Et pour lui, ce n'était pas d'aller culpabiliser quelqu'un parce qu'il était dominé par une passion qui lui faisait du tort, qui le détruisait. Mais il était poussé de l'aider pour l'aider de là. Il cherchait son bien, le sortir de là. Et il était prêt à parler d'une partie de sa vie dont il n'était pas fier, pour pouvoir encourager la personne. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous pensez autrement, vous avez d'autres valeurs. Et donc, vous allez vous comporter autrement. Ce n'est pas être différent pour être différent. On est différent parce qu'on est différent. On est déjà différent. Et on est en train de vivre une autre vie. Et on est en train de vivre une qui est naturelle. C'est pour ça qu'on ne met pas de pression, on ne se compare pas les uns aux autres, parce que nous sommes tous à des stades de transformation, des stades différents, Et donc, on ne se comporte pas. Le Seigneur fait son œuvre. Chez un, ça va un peu plus vite. Chez l'autre, ça va un peu moins vite. Chez l'un, il y a plus de lutte que chez l'autre. Il y a toutes sortes de choses. Il y en a un, c'est des trucs qui étaient plus visibles. Chez l'autre, c'était moins visible. On est très différents. On ne se compare pas les uns aux autres. Mais il faut que chez chacun, on voit l'œuvre de Christ, l'œuvre de la parole, le renouvellement de l'intelligence. Et ça va transparaître dans le corps. Vous savez, des enfants, vous observez les enfants quand ils voient quelqu'un de nouveau qui vient vers eux. Ben, ils regardent très vite le visage. Et puis ils décident très vite, je me sauve ou c'est quelqu'un qui est gentil. Ah, lui, c'est dans son intérêt, hein. Il est petit. Et quand il voit un grand venir, il regarde très vite, il lit les yeux, il lit le visage et il décide. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le visage va lui dire ce qu'il y a dedans. Ou même les filles et les femmes aussi, hein, sont là, elles voient venir un inconnu, elles vont tout de suite, elles essayent de discerner s'il faut prendre ses précautions ou bien si ça peut aller. Pourquoi ? Parce que le visage dit ce qu'il y a dedans. Mais s'il peut dire ce qu'il y a de mauvais dans quelqu'un, pourquoi est-ce que le visage ne peut pas dire ce qu'il y a de bon ? Hein ? Donc laissons Dieu faire son œuvre afin que transparaisse sur le visage, par nos paroles, que le corps puisse s'exprimer, et la paix, parce qu'on peut lire sur un visage paisible. On peut lire la douceur. Ça se lit. La confiance, la compassion, la joie, ça se lit sur un visage. Mais pour que ça se lise, pour que ça paraisse sur un visage, il faut que ça soit du vrai. Hein, il y a une différence entre la joie et la rigolade. Il y a une différence entre la discipline et la paix. Hein, c'est deux choses différentes. Et finalement, j'ai parlé de la paix, la douceur, la confiance, la compassion, la joie. Et en fait, ce ne sont que des expressions de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de nous. Pour rassurer ceux qui nous entourent et dire, vous savez, Dieu cherche ton bien. N'aie pas peur de lui. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux lui faire confiance. Vas-y, lis-le sur mon visage. Tu sauras comment il est. Et tu peux t'approcher de lui, tu peux lui parler, tu peux lui confier ta vie. Tu ne risques rien. Il ne va pas abuser de toi. Il va t'aider à t'épanouir. Et lorsque on a marché avec le Seigneur, on regarde en arrière et puis on voit le chemin, on dit « Oui, merci Seigneur, bon, ce n'est pas encore tout ce que ça devrait être, mais merci Seigneur que ce n'est pas ce que c'était. » Et il y a un changement qui se fait. Et donc, c'est ça de ce qu'il parle. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous cesserons de nous plier sous la pression du monde extérieur pour être acceptés ou approuvés, le Saint-Esprit pourra procéder à un renouvellement de notre intelligence. Et donc, d'où l'importance de lire la parole, de voir la pensée de Dieu, de lui permettre d'avancer, de mettre en pratique. On dit, mais je ne sais pas tout comment ça marche, mais je te fais confiance. Et ce matin, j'écoutais, on parlait de l'équipe de Lyon, de foot, et puis un nouveau coach qui est là. Et tout de suite, les supporters, ils attendent du résultat tout de suite. Et il dit, mais on ne peut pas changer une équipe tout de suite, il faut donner le temps de travailler. Mais il dit, il y a quelqu'un qui disait, non, je sais que c'est un bon coach, il va pouvoir faire quelque chose et obtenir des résultats, mais il faut du temps. Mais c'est un peu ce qu'on peut dire de l'Esprit de Dieu. C'est un bon coach qui est là, qui est dans nos cœurs. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est présent et il veut faire une œuvre. Il veut nous transformer. Et petit à petit, ça va changer. Soyons patients avec nous-mêmes, déjà. En général, c'est nous qui sommes les moins patients avec nous-mêmes. Et soyons patients avec les autres. Et Dieu fera son œuvre. Mais laissons-le faire. Et donnons-lui la liberté. Et il va opérer une transformation qui le caractérise, qui le ressemble. Et nous aurons alors, à ce moment-là, eh bien, nous aurons un discernement de la volonté de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il s'imagine que Dieu veut le rendre malheureux, l'interdire plein de choses, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus faire ce qu'on veut, et c'est pas bien. Il a des idées sur Dieu qui ne correspondent pas. Mais lorsque il y a une œuvre qui se fait en nous, et tout d'un coup on découvre, on dit mais Dieu est bon. Dieu cherche mon bien. Vous savez, Joseph, fils d'Isaac, fils d'Abraham, Joseph, ses frères l'ont pris par jalousie, l'ont pris et l'ont vendu dans l'esclavage, et puis il a été emporté en Égypte, et puis là-bas, il était tout seul d'abord, c'est déjà une souffrance, puis ensuite, il était en prison, il était malheureux, on a menti sur lui, Un jour, comme vous connaissez l'histoire, dans la Genèse, eh bien, ses frères viennent et ils ne se rendent pas compte que c'est lui qui est le numéro 2 dans le royaume et qu'ils ont affaire à lui. Et après, il y a un moment où Joseph se révèle à eux et dit « Mais je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu dans l'esclavage. » Alors là, je ne sais pas, moi j'aurais été gêné à leur place aussi, parce que c'est l'homme le presque plus puissant du royaume, et là, c'est l'occasion pour se venger, pour régler des comptes. Et c'est pas étonnant, mais vous savez ce qu'il leur a dit ? Il a dit non, non. Et on peut le lire dans Genèse 45. Écoutez-le, Genèse 45, si vous voulez suivre avec moi, Genèse 45, c'est extraordinaire ce qu'il leur dit. Genèse 45, et je vais lire les versets 4 à 8. Donc là, il vient de leur dire qui il est. Et verset 4, il dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Aïe, ça y est, aïe. Comme on dit en anglais, les poules, elles sont revenues. Et il dit, mais regardez verset 5, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa nation et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Voilà. Ah, bon, il n'a pas dit ça la première année, hein. Et c'est vrai que nous aussi, on passe parfois des périodes où on se dit hey, « Dieu, tu m'as oublié ?» Tout ce que papa me racontait, c'est pas vrai. Regarde ce qui m'arrive et il laisse agir la jalousie des autres qui me veulent du mal. Mais là, avec le recul, il peut regarder et dire « Ah, maintenant je comprends pourquoi tout cela est arrivé. » Parce que s'il m'avait dit de quitter mon père et d'aller en Égypte, j'aurais jamais été. Hein. Mais là, par la force des choses, j'ai dû aller. Et Dieu m'a mis en place. Et c'est pour vous permettre de survivre. Et puis il a dit, vous savez, bon, peut-être nous on n'est pas bons, puis vous n'êtes pas bons, et moi il n'a pas dit comme ça, mais il dit Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Et il a su se servir des circonstances et des cœurs mauvais et tout, il a pu se servir de tout cela, parce que Dieu est un Dieu souverain. Il peut se servir de ce qui est dans le cœur des hommes et de ce que les hommes ont envie de faire. Il s'en sert pour accomplir son plan. Et Joseph dit, écoutez, rassurez-vous. Là, maintenant, on peut regarder, on voit l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est bon. Dieu est un Dieu qui est bon. Et Vous savez, Satan est toujours en train de vouloir nous faire douter de la bonté de Dieu. Il a fait ça tout de suite avec notre mère Ève dans le jardin. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, je ne veux pas manger de l'arbre là? Et si vous a dit ça, c'est peut-être pour vous empêcher d'avoir quelque chose de bien, hein? La connaissance du bien humain, vous vous rendez compte? Et il vous en prive. Et on sait ce que ça donne maintenant, c'est le monde dans lequel on vit. Alors que Satan est tout le temps en train de nous faire douter. Et vous savez combien de fois, nous, dans notre marche, même en tant qu'enfants de Dieu, des fois il y a des événements qui se passent et tout ça, et on commence à se dire, mais Dieu, t'es où? Comment? Bon, il a l'habitude que les enfants ne le comprennent pas. Il a l'habitude, et bon, il ne se fâche pas, heureusement pour nous, hein, mais il dit, attends, fais-moi confiance. Laisse-moi agir, laisse-moi. Mais au fur et à mesure que notre cœur est transformé, eh bien, on se dit, mais non, Dieu est bon, je ne peux pas douter de lui. En fait, c'est ce qui est arrivé avec Abraham, hein, je vous ai dit tout au début. Quand Dieu lui dit, offre ton fils, il dit, mais moi, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il sait ce qu'il fait, et même si je ne sais pas, j'ai confiance, ce n'est pas de problème, j'offre. Mais parce qu'il y avait un travail qui a été fait. Et dit, donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, afin que vous puissiez reconnaître, afin que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. Et connaître la volonté de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Ou parfait, c'est le mot accompli. C'est quelque chose qui est complètement réalisé, quelque chose de bien. Et vous savez, Jésus-Christ, dans un moment d'une épreuve des plus douloureuses, dans le jardin de Gethsémané, il dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il dit, j'ai pas envie, physiquement, en tant qu'être, comme j'ai aucune envie d'aller, mais je veux ta volonté. Et il y a ce renouvellement de l'intelligence où on peut arriver au point où on dit, Seigneur, même si ça me paraît terrible, mais je peux te faire confiance. Et nous vivons une grande expérience. C'est indispensable. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre qu'on a besoin de vivre dans nos vies. Et ça va nous aider à traverser combien de choses. La confiance dans la bonté de Dieu, que Dieu cherche notre bien, c'est une confiance sûre, eh bien, nous permet de vivre des choses qu'on ne comprend pas. Et on se demande pourquoi, et on n'a pas la réponse tout de suite. Il y a des choses qu'on n'aura pas la réponse. Peut-être tant qu'on est sur terre, on n'aura pas la réponse. Mais il y a une chose, il dit, mais je sais que Dieu sait ce qu'il fait. J'ai une conviction que ce qu'il fait est bien, même si ça ne me paraît pas bien. Et ça nous arrive tout le temps. C'est, bon, on est obligé de reconnaître notre faiblesse. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas comprendre et qu'il ne peut pas nous expliquer. Et moi, mes parents, ils m'ont jamais expliqué pourquoi il fallait que je me couche à 8 heures le soir. C'est encore jour et puis les enfants du voisin, ils couraient dans tous les sens. Je n'ai pas compris pourquoi il fallait aller au lit, tirer les volets pour faire un peu noir. Et puis on savait, on entendait le bruit, on savait que le monde continue. Puis nous, il fallait le coucher. Bon, maintenant, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Et mon fils est en train de faire ça avec les siens. C'était pas bien? Si, c'était bien, mais bon, j'ai pas cru que c'était bien au moment. On a essayé de négocier parfois, quand c'était les vacances, on a négocié un peu, allongé un peu, on s'est couché à 21h au lieu de 20h. Et vous savez, mais en tant qu'enfant, nous sommes enfants de Dieu. Et des fois, on est là, on essaie de négocier avec Dieu aussi, et puis je comprends pas pourquoi. Écoute, il dit, fais-moi confiance. Si je peux te l'expliquer, je t'expliquerai. Si je peux pas te l'expliquer, si je peux pas te le dire, eh bien, fais-moi confiance. Et ça, c'est la vie qu'a vécu Abraham, et c'est la vie vers laquelle nous voulons tendre. Et donc, en attendant, bien sûr, ça peut être difficile, mais c'est pour notre bien. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Je vais donner un moment. Vous pourrez déjà dire au Seigneur ce que vous avez dans le cœur. Et puis je vais prier. Oui, Père, tu n'as jamais promis de nous expliquer toutes choses, mais tu nous as avertis qu'on ne serait pas compris par le monde qui nous entoure. Parce que plus on s'approche de toi, plus on se trouve en décalage avec le monde qui nous entoure. Et mes Seigneurs, c'est un choix que nous avons fait, parce que nous savons que c'est toi qui auras le dernier mot dans ce monde. Et nous savons aussi que tu cherches notre bien. Dans ce monde, les scientifiques nous promettent des choses, et puis pas des années plus tard, on se rend compte que c'était pas bon et c'était autre chose. Et même si leurs intentions n'étaient pas mauvaises, mais des fois, c'est pas toujours ça. Mais Seigneur, toi, nous apprenons à te faire confiance parce que ce que tu dis se réalise. Tu veux notre bien. Seigneur, donne-nous de pouvoir subir, d'accepter cette transformation de notre pensée, de nos valeurs, et de voir le monde autrement, et de vivre une autre vie dans ce monde. Et en fait, de vivre tel que d'autres soient attirés à toi. Peu importe leur état, peu importe où ils sont et ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils soient attirés à toi parce que tu donnes de l'espoir, tu donnes une nouvelle vie et tu donnes une nouvelle dimension et tu as des promesses qui sont sûres. Seigneur, et tout ça grâce à la croix de Christ, grâce au sang versé sur la croix. Père, tu connais chaque cœur ici, chacun a subi des choses dans la vie, chacun a eu des expériences où il n'a pas compris, chacun souffre de ce moule qui veut nous être imposé. Et Seigneur, parfois on est tenté de rentrer dans le moule pour éviter les problèmes, et parfois on est malheureux dans ce moule et on veut sortir. Et Seigneur, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Mais Seigneur, aide-nous à comme Abraham, qui a été prêt pour le premier sacrifice et qui a été préparé pour le deuxième sacrifice. Seigneur, fais ton œuvre, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.